Bonjour à toutes et tous et très bonne année 2023. Meilleurs vœux pour vous et vos proches. Quel bonheur de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Family Pack, le podcast jeux vidéo qui parle de jeux vidéo en famille. Je crois que je n'ai jamais fait une intro aussi concise et rythmée. Je peux m'arrêter là. Merci de nous avoir suivis. Au mois prochain.
Non, peut-être pas quand même.
Donc moi c'est Bruno Roca, très heureux de vous retrouver. Et avec nous comme chaque numéro, Madame Maman, Natacha pour les intimes. Comment vas-tu, Madame Maman ?
Ça va, ravi de vous retrouver pour une nouvelle année que j'espère qui sera bonne pour vous d'ailleurs. Tiens.
Et avec nous également celui qui a une nouvelle voix par épisode, c'est Axel, 12 ans pour ceux qui l'ont connu dans les débuts de Family Pack. C'est vrai que la voix, voilà, est méconnaissable, mais que voulez-vous, ça grandit presque 13 hein, au mois de mars. Comment ça va, Axel ?
Wesh l'équipe, bonne année 2023 à vous tous, et puis j'espère que cette année, bah, elle sera ouf pour vous niveau gaming, et puis voilà, vous avez réglé tous vos problèmes, et puis voilà.
Très belle séance de vœux familiale. Aujourd'hui, pour cet épisode, on a beaucoup de choses à vous dire. Avant toute chose, bien évidemment, nous allons remercier les contributeurs du Utip, car vous pouvez nous soutenir si vous le désirez. Hein, l'adresse est dans le lien de cette émission. Enfin, vous tapez Utip Family Pack. Vous pouvez nous soutenir et arrêter quand vous voulez d'ailleurs. Hein, donc, l'occasion de remercier nos contributeurs de la MUR, que sont Mopral, Machin Truc 76, Mika et HAL9. Merci énormément. Plein de cyber bisous qui vous sont destinés. Et bien sûr, une très bonne année à vous. Également, petite nouveauté pour cette émission, nous avons décidé, peut-être momentanément, mais enfin, on réflexionne, hein, on se fait des débriefs, on en parle beaucoup, on se fait des séances, des réunions à n'en plus finir. Notre jeu devine le slogan « On rentre chez maman » ne sera pas de la fête pour cette émission, puisqu'on commence à avoir l'impression d'en avoir fait le tour. Donc le temps de réflexionner, si vous avez des idées de jeu, nous on va réfléchir de notre côté, n'hésitez pas, car vous savez que nous sommes présents sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Insta, Facebook et compagnie, nous y sommes, donc n'hésitez pas à venir tailler le bout de gras avec nous. Beaucoup de jeux, ce qu'on va faire, c'est que, comme d'habitude, on va discuter en mode détente des jeux qui nous ont, marqués ou occupés, tout du moins ces dernières semaines, depuis le dernier épisode qui remonte à un peu plus d'un mois. On s'excuse pour... D'ailleurs, pour le petit retard, mais bon, c'est pas évident, effectivement, entre nos boulots respectifs et la vie de famille et tout ce qui s'ensuit. On essaye de maintenir quand même un épisode par mois, à peu près un mois. Parfois, il y a quelques jours de retard, mais on s'accroche. Et puis, c'est un devoir envers vous, les auditeurs, envers les contributeurs du Utip. Donc, on fait tout ce qu'il faut pour que les délais soient quand même plus ou moins tenus. On va parler donc de ce qu'on a joué, de ce à quoi on a joué ces dernières semaines, et puis, c'est normal, hein, début d'année oblige, on va vous parler de nos jeux de l'année 2022, hein, de nos GOTY, comme on dit dans le jargon, nos Game of the Year, avec un bon accent Oxford Institute. Oui, on vous parlera donc de nos GOTY, hein, de nos jeux de l'année 2022, et puis, ce sera l'occasion d'aller peut-être celles et ceux qui nous découvrent, d'aller réécouter d'anciennes émissions où Axel avait une autre voix, où on parle de ces jeux-là.
J'évolue.
Voilà, il évolue tel un Pokémon dans le monde réel.
Attrapez-les tous.
Oulala.
Bon, à quoi c'est-il qu'on a joué ces derniers temps? Parce que cette intro est assez longue, j'ai déjà pas mal parlé. Est-ce que j'ai lancé l'enregistrement? J'ai eu une frayeur, oui, je l'ai bien lancé. J'ai eu un peu peur, là, sur le, sur le moment. On va commencer avec du lourd, du très très lourd, puisqu'est sorti il y a quelques semaines Final Fantasy VII Crisis Core Réunion Turbo Remix HD.
T'abuses un peu sur le nom là quand même.
Ouais, il y a un peu de ça quand même. Hein.
Jeu PSP à l'origine, qui faisait partie des spin-offs de la galaxie Final Fantasy VII et qui était le spin-off le plus honnête, hein, vraiment, enfin à mon sens, de la galaxie FF7 à l'époque. Alors là, on est entre le remake et le remaster, puisque c'est pas totalement un remake à l'image d'FF7 Remake. Mais il y a quand même des choses qui ont été améliorées. Natacha, qui d'ailleurs, entre-temps, je ne sais pas si on l'a dit, a été nommée rédactrice en chef de Geeks by Girl.
Et de Life by Girl.
A testé le jeu pour le site. Mais surtout, c'est devenue une grande fan de Final Fantasy VII.
Bah, best rédactrice ever.
C'est mignon.
fan de Final Fantasy VII, donc Natasha depuis FF7 Remake. Bon, moi, c'est depuis voilà, des temps anciens préhistoriques. Mais c'est vrai que le remake, vraiment... C'est vrai que Remake est, voilà, est exceptionnel. Donc là, dans Crisis Core, dans le remake remaster de Crisis Core, on n'est pas à ce degré hein, de réinterprétation. Mais le jeu a quand même su garder pas mal de ses qualités. Donc, Natacha, tout d'abord, qu'est-ce que tu peux nous dire de Crisis Core ?
Bah en fait, comme tu l'as dit, c'est, oui, c'est donc un remaster du jeu PSP qui était sorti en 2008, si ma mémoire est bonne. Là, on est sur un jeu qu'ils ont totalement relissé pour lui donner un look un peu plus actuel, un peu plus pour coller un peu plus en fait au graphisme. Non, justement. Pour coller un peu plus au graphisme de FF7 Remake. Par contre, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement le même jeu que celui qui était sur PSP. Ils n'ont pas du tout remanié, bah, vous le savez sûrement si vous avez fait FF7 Remake, mais l'intrigue a été un peu remaniée par rapport à l'intrigue de FF7 original. Et là, bizarrement, ils n'ont pas remanié l'intrigue, donc c'est exactement la même que celle sur PSP. J'avoue, c'est un peu dommage, mais non, c'est pas nul, parce qu'en fait, les gros problèmes qu'il y avait, que les joueurs avaient plus ou moins remonté sur PSP, en fait, ont été réglés sur cette version-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un système d'OCN, c'est une espèce de roulette russe, dans les combats qui te permettent en fait d'avoir des attaques spéciales, qui te permettent d'avoir des améliorations sur ton personnage pendant un laps de temps. Et en fait, cette roulette, elle roule tout le temps et elle se déclenche assez souvent. Et le problème, c'est que dans le Crisis Core original, en fait, à chaque fois que la roulette déterminait une attaque ou un truc, ça se lançait automatiquement. Sachant que les cinématiques n'étaient pas passables à ce moment-là. Je vous laisse imaginer sur un combat qui est censé être nerveux, à quel point ça pouvait être frustrant d'avoir des attaques qui se déclenchent toutes les 30 secondes. Là, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'attaque est déterminée, bah, en fait, ça va attendre que le joueur presse un bouton pour lancer l'attaque quand lui l'aura décidé. Et si vous en avez marre de voir les cinématiques au bout d'un moment, vous pouvez les passer. Donc, c'est super bien fait. Du coup, le jeu est hyper rythmé. Alors, c'est un peu redondant, surtout au niveau des missions, parce qu'il y a beaucoup de missions annexes, mais les missions annexes, c'est des couloirs arènes. Hein. Donc, c'est un peu toujours la même chose, mais ça permet de faire de l'expérience et de récolter des équipements ou des items qui vous seront utiles pour la suite de l'aventure. Donc, c'est quand même vachement bien fait. Moi, j'ai surkiffé. J'ai pleuré. C'est vraiment une histoire qui est hyper prenante. J'ai adoré le personnage de Zack.
Oui, justement, parce qu'on l'a peut-être pas précisé. Donc, c'est un action RPG. Enfin, les combats sont aléatoires, mais ça se joue de manière action. On incarne le personnage de Zack. Il faut rappeler que c'est une sorte de préquel à Final Fantasy VII. Voilà, personnage de Zack qui est officier au sein du soldat, là où est censé avoir officier Cloud également. Cloud qu'on va croiser dans le jeu, sans spoiler plus, ça c'est pas un spoil, hein, mais voilà. Et le sémillant Sephiroth.
En fait, en gros, on voit comment Cloud est devenu Cloud, en fait. Ça se passe 7 ans avant les... Alors, il y a beaucoup de 7. Hein, là, pour Final Fantasy VII, il kiffe les 7. Parce que ça se passe justement 7 ans avant les aventures de Cloud dans Final Fantasy VII.
Comme de par hasard, le nombre que j'aime le moins.
Ah, bah ça, après... Et en fait, c'est comment Cloud est devenu Cloud, quoi. Et je trouve ça génial. Et le personnage de Zack, tout comme les personnages rajoutés juste pour cette version Angel et Genesis... Je les trouve géniaux. Ça amène aussi un autre éclairage sur l'histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Alors moi, j'avais aimé sur PSP à l'époque. Je ne l'avais pas fini, je ne sais plus pourquoi. Et justement, ce qui m'a fait peur, c'est que moi, bon, étant un fan absolu de Final Fantasy et FF7 étant l'un de mes épisodes préférés aussi, moi, ce qui m'a refroidi en te voyant jouer, c'est la redondance, justement, ce dont tu parlais. Et j'ai l'impression qu'on a ça aussi dans les niveaux principaux. Et c'est vrai que j'ai peur que cette formule qui pouvait tout à fait fonctionner à l'époque, d'autant plus que c'était un jeu portable, donc ça s'adaptait bien à des petites sessions sur portable, sur des longues sessions sur sa télé, j'ai peur que ce soit redondant.
Ouais, bon, du coup, c'est bien beau de parler tout ça, de Zack, comment Cloud a été créé, tout ça, bon, c'est cool. Mais en fait, on achète le jeu, mais en fait, c'est exactement la même chose. Il y a juste les bugs qui ont été corrigés. En plus, les missions annexes, elles sont tous pareilles, enfin, quasi tous pareilles. Mais du coup, à quoi ça sert de repayer quasi 80 balles le jeu si c'est quasiment les mêmes choses juste pour corriger des trucs? Parce que l'histoire, on la connaît, c'est bon. Bon, c'est peut-être bien pour découvrir, mais est-ce que ça vaut vraiment le prix de payer 80 balles pour la même chose?
Non, je crois qu'il est pas vendu ce prix-là, il me semble pas.
Attends. Mais du coup, ça sert à quoi d'y rejouer alors ?
Bah déjà, à quoi ça sert d'y jouer ? Bah ça sert
d'y
que...
D'y rejouer, j'ai dit.
Bah d'y rejouer, bah ça sert déjà pour les gens qui, comme moi, sont tombés amoureux d'FF7 Remake, ont abandonné FF7 l'original parce que avec les moi avec les traductions au bout d'un moment je comprenais plus rien à l'histoire et moi si je comprends pas l'histoire je suis désolé mais c'est rédhibitoire.
Bah, moi je l'ai fini mais j'ai oublié plus de la moitié de l'histoire.
Donc tu vois même toi ça t'a pas voilà.
Ah, bah, voilà.
Et moi je suis contente parce que je l'ai pas découvert sur PSP à l'époque voilà parce que moi la PSP c'est.
Bah non c'est normal si je jouais pas.
Ouais bah déjà moi la PSP je l'aimais pas cette console parce que déjà elle coûtait très cher et moi j'avais qu'une trouille c'était de la casser donc moi j'ai jamais joué dessus j'ai
loupé. Je comprends.
Après moi j'ai joué à Birth by Sleep j'ai pas joué à Birth by Sleep justement parce que c'était sur PSP j'ai attendu qu'il sorte sur une console de salon pour y jouer.
La PS3 par exemple
mais par contre c'est vrai que. C'est vrai que Crisis Core, moi du coup sur PSP, je suis passée totalement à côté. Et là, je suis contente de l'avoir revu avec des graphismes proches de FF7 Remake. Parce que du coup, moi j'étais dans la continuité de l'histoire, j'étais happée dans le truc. Et par contre, moi je suis pas d'accord parce que le segment principal, l'intrigue, t'as envie de savoir où tu vas, t'as envie de savoir les enjeux. Et c'est pas redondant pour deux sous quoi. Enfin moi personnellement, ça m'a pas gênée en tout cas.
Ok, mais là par contre où je suis pas du tout d'accord avec toi, c'est que visuellement c'est pas proche d'FF7 Remake, chérie. Ça vraiment, enfin, le jeu est et puis de toute façon, il peut être intéressant sans être méga beau, c'est pas le problème. Il est visuellement il est très agréable, mais on est à des années-lumière de. Il faut vraiment que tu relances FF7 Remake. On est à des années-lumière d'un FF7 Remake visuellement, mais en même temps c'était pas le but et c'est pas grave.
Mais après, j'ai pas dit que c'était les mêmes graphismes et la même magnificence
même univers,
que FF7 Remake. C'est-à-dire que c'est lissé pour faire genre FF7 Remake, mais en moins bien, en moins beau. Évidemment, il y a moins de moyens, ça se voit clairement.
Ils ont refait des modèles quand même. Ils ont refait des modèles 3D, je crois. C'est les cinématiques, il me semble, et en images de synthèse, qui sont identiques.
Alors oui, par contre, ils ont repris les cinématiques telles qu'elles étaient déjà dans le jeu PSP. Et le problème, c'est que... Excusez-moi, ils sont en train de faire des mimes, là, c'est terrible. Pour se concentrer sur ce que je dis, c'est horrible. Ils ont repris exactement les mêmes cinématiques, et le souci, c'est que du coup, il y a un grain... Alors, même s'ils les ont un peu lissés, il faut reconnaître qu'ils les ont un peu lissés, mais il y a un grain qui est quand même dégueulasse, notamment sur les attaques. Surtout quand on a une télé HD, nous, on a une télé Ultra 4K en plus, et du coup, c'est compliqué. C'est très compliqué quand on voit la différence entre les graphismes en jeu et les graphismes des cinématiques. Je crois qu'Axel, tu voulais dire quelque chose.
Ouais, bon, c'est cool tout ça, vous parlez de cinématiques.
c'est cool tout ça, c'est bon, au bout d'un moment...
Mais il est merdique, votre jeu.
C'est cool tout ça, de parler de cinématiques et tout ça. Mais du coup, si je comprends bien, pour ceux qui ont toujours pas fait l'histoire, d'accord, là, ils peuvent l'acheter pour la redécouvrir. Mais pour ceux qui ont déjà fait l'histoire sur PSP, ça ne sert absolument à rien, c'est ça ?
Si, parce que le système de combat a été amélioré. Le nombre de coups, en fait, le rythme des coups a été augmenté, ce qui fait qu'en fait, les combats sont vachement plus péchus. Et dans un action RPG, les combats, c'est quand même vachement important. Même si l'histoire, tu la connais, moi, je sais pas, découvrir Crisis Core avec un nouvel écran et avec des améliorations qui fait que le jeu est encore meilleur, moi je suis désolée, je signe. Même si je l'ai déjà fait. Tu me fais ça avec un Devil May Cry, je l'achète direct.
Oui, parce que Devil May Cry, tu kiffes. Bon, en même temps, je comprends son kiff. Mais le fait qu'en fait, l'histoire, bah, ça change absolument pas. Et le fait que l'histoire, tu l'as déjà fait une fois. Et si ça se trouve, même sur PSP, ça a déjà dû saouler. Tu dis, oh non, c'est bon, l'histoire, je l'ai déjà refait, allez, c'est bon, je refais pas. Mais juste pour un système de combat amélioré, pour la qualité, on peut discuter. Ok, d'accord. Mais juste pour un nouveau système de combat, repayer un prix tel que 40-50 balles, je suis désolé, ça vaut même pas la peine. Même pour un nouveau système de combat... Bon, après, je veux pas faire le mec hater, tout ça, mais moi, c'est ce que je pense.
Oui, mais alors, dans ces cas-là, moi qui ai acheté toutes les versions Devil May Cry 5 possibles et imaginables, c'est exactement la même chose et c'est toujours la même histoire. Quand tu as un jeu et que tu le refais... quelques temps après parce que t'as envie de le refaire, si là t'as l'occasion de le refaire en version améliorée, bah c'est pareil, ça peut justifier l'achat.
Moi je pense que pour les gros gros fans, dont moi je fais partie, hein, je pense que tu l'aurais pas reçu pour Geek by Girl, je l'aurais acheté de toute façon puisque moi je suis fan de Final Fantasy. Et c'est vrai que moi qui n'aime plus trop jouer sur portable à cause de mes yeux, voilà, moi je suis comme ça, j'ai toujours préféré jouer sur voilà, une belle grande télé, même pour l'immersion, je préfère jouer sur une grande télé. Moi je pense que ça vaut le coup quand même de le prendre. Alors apparemment il est plutôt vendu autour des 50-60 euros que 80 euros, ça reste un investissement quand même. Par contre, bon, voilà, vraiment on se moque pas du monde non plus. Après, c'est sûr que si vous nous écoutez, vous êtes fan de Final Fantasy, c'est pas le moment pour l'acheter. Vous attendez un petit peu qu'il baisse, vous attendez une promo, vous n'êtes pas obligé de vous jeter dessus, mais c'est clairement à garder en tête pour un achat futur.
Moi, perso, sincèrement, ça les vaut. Sincèrement, j'aurais pas... Sachant ce que je sais maintenant, j'aurais pas rechigné à l'acheter. Maintenant, après, c'est moi, et voilà, c'est vrai que je suis tombée amoureuse d'FF7 Remake. Je prie le ciel d'avoir un remaster amélioré de cette façon-là pour Dirge of Cerberus, parce que moi, Vincent, c'est ma cam totale. D'ailleurs, il y a un big troll, je ne dirai rien, mais il y a un big troll dans le jeu. J'en suis toujours pas remise, j'ai rigolé comme pas permis. Enfin non, j'étais un peu énervée, mais... Mais bon, voilà, il y a un troll comme pas permis dans le jeu. Mais moi, je prie pour qu'il nous refasse un remaster à ce niveau-là de Dirge of Cerberus. Je prie, quoi.
Rappelons à toute fin utile, malgré tout, que Crisis Core Final Fantasy VII Réunion, ou Final Fantasy VII Réunion, est disponible donc non seulement sur les consoles PlayStation, mais également sur Switch, console Xbox. Est-ce qu'il est dispo sur PC? J'ai un gros doute, mais
je crois pas.
Absolument pas.
Non.
Bah ouais, je me dis que s'il est dispo sur Xbox, il peut être dispo sur PC. Ah, bah. Ça m'étonnerait pas. Alors là... Ah oui, oui, donc il est disponible sur PC également. Oui, ça m'aurait... Bon, je pense qu'on a fait le tour de Crisis Core.
Alors, par contre, sincèrement, je déconseille sur Switch. Mais bon, après, ça, c'est moi.
Temps, c'est normal.
Mais en même temps, c'est normal. La Switch, elle a des capacités techniques claquées. C'est normal. Mais sur PS5, ouais, ça fait le taf.
Ouais, mais moi, je suis désolée. Vu qu'il y a Bayonetta sur Switch, pour moi, la console, elle garde un intérêt. Je suis désolée.
Bayonetta, si je ne fais erreur, nous en avons parlé lors de l'émission précédente. Et on va en reparler un petit peu tout à l'heure en deux mots, hein, bien évidemment. Bon, j'aimerais ouvrir une page mini-débat sur un jeu qui a suscité pas mal de débats. C'est Sonic Frontier. Dernier Sonic en 3D, on estampillé Sonic Team. On s'attendait, beaucoup s'attendaient à une catastrophe. Ce n'est pas une catastrophe. J'ai pu me le procurer donc en promo là, pendant les fêtes. Et force est de constater... Alors, je rappelle le principe. Hein, c'est un Sonic en monde ouvert. Alors, c'est des mini-mondes ouverts. Hein, voilà. Différentes îles. 5 de mémoire. Certaines avec plus de choses à y faire que d'autres. Avec Sonic qui se balade, qui doit récolter plein de trucs, avec plein de... Voilà, de mini-jeux, des ateliers, entre guillemets, où il faut faire pas mal de petites choses, des petites énigmes. Des stages 3D plus traditionnels pour récolter aussi des clés. Enfin, il y a pas mal de choses. Et c'est un jeu qui souffle le chaud et le froid, puisque c'est incroyable. C'est que, d'un côté, il a un... Ça va, on ne dérange pas, chérie ? Donc je sais plus où j'en étais. Oui, parce que Natacha est sur le Discord de Geek by Girl. Voilà, je dis tout, je balance.
Elle balance. Et tu parles à Lucie.
Regardez juste quelque chose, c'est tout.
Hein. Voilà,
et
voilà.
Tu parles à Lucie, allez, je balance.
Voilà. Elle s'est dit, ouais, ça, c'est le vieux qui parle. On va le laisser déblatérer. Et oui, donc c'est un jeu qui souffle le chaud et le froid, puisque d'un côté, quand on est dans le monde ouvert, le gameplay est vraiment kiffant. Vraiment avec Sonic, il y a un système de combat qui est vraiment très chouette. Avec Sonic qui balance des coups de pied, des coups de poing, toujours ses attaques, bien évidemment, quand il se transforme en boule, hein, quand il se boulifie. C'est super fun, on va dans tous les sens. C'est assez. Voilà, c'est vraiment très sympa. Et il y a des choses qui sont vraiment, mais très, 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 très énervantes. On retrouve des vieux gimmicks claqués au sol, comme diraient les jeunes de la Sonic Team, avec des caméras pendant certains boss, on ne comprend rien. On ne voit pas les attaques arriver. Avec aussi un arbre de compétences qui se remplit tellement vite que moi, même sans farmer, je suis arrivé à la moitié du jeu, j'avais déjà toutes les compétences et je me suis dit à quoi ça sert que je continue à récolter des trucs. Tous les décors se ressemblent, quasiment toutes les îles, c'est quasiment le même décor avec des petites variations de couleurs, mais enfin vraiment, on a l'impression de faire la même île ad nauseam, enfin c'est assez bizarre. Y a plein de défauts, il y a des bugs partout. Bon, bah, c'est la Sonic Team, hein, voilà. Il y a des bugs partout. Et bon, le scénario est sympa et en même temps complètement débile. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et renvoie à des vieux Sonic. Et en même temps, il y a des parties de gameplay qui sont mais surkiffantes, limite addictives. Et après, à côté de ça, il y a des trucs qui sont tellement, à mon sens, hein, je répète que c'est juste mon avis, qui sont tellement nuls, tellement agaçantes que. C'est vraiment un jeu schizophrène, c'est, on a l'impression que c'est deux ou trois jeux qui cohabitent en un, et vraiment, je peux pas dire que c'est un mauvais jeu, parce que c'est un jeu qui m'a tellement fait kiffer par moments, et qui m'a tellement fait rager à d'autres, que je sais pas, je le trouve sympa, mais je ne saurais même pas comment le qualifier en fait, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été extrêmement réussies, et d'autres qui sont vraiment très décevantes. La réalisation, elle, pareil, est vraiment datée. Il y a du pop-up partout de certains éléments de décor et c'est pas franchement très beau, mais ça, c'est pas grave. La musique est sympa, mais on a mille fois mieux, je trouve, dans d'anciens Sonic 3D, sans parler du meilleur Sonic de ces dernières années, Sonic Mania, qui reste mon préféré avec Sonic 1 Mega Drive. Donc voilà, c'est un jeu qui souffle le chaud et le froid, je me répète. C'est une sorte de... C'est assez... Ouais, c'est assez déconcertant.
Ouh, je te sens colère. Et alors du coup, moi j'y ai pas joué, hein, parce que moi, Sonic, ça fait très longtemps que ça me... Ouais, non, depuis que c'est en 3D en fait, c'est compliqué. Et du coup, moi j'aimerais bien savoir ce qu'en pense Axel, parce que lui aussi y a joué. Lui aussi.
En vrai, Sonic Frontiers, bah, à la fois c'est génial, et à la fois ils se foutent de nous, genre je vais dire. Parce que...
Bah, au moins c'est cash.
Oui, c'est très cash. Alors... Déjà, ce qui est génial, c'est qu'au début, bah, c'est vraiment un monde ouvert, t'as plein... En fait, c'est comme si c'était un gros bordel avec plein de trucs partout et tu peux faire à peu près tout ce que tu veux.
Oui, c'est ça, c'est bordélique, en fait.
Voilà. Et donc, le fait aussi de faire des jeux, là, des mini-jeux, là, pour compléter la carte, voilà, pour compléter la carte sur l'île, quoi, c'est vraiment, je trouve ça génial. Les mini-boss, au début, sont fun aussi. Mais après, où ils se foutent un peu de nous, c'est que l'arbre de compétences... Il est ridicule, il est honteux, voilà. Donc comment c'est...
Ah ouais, carrément honteux, quoi.
Ah oui, mais c'est la honte.
Non, mais il a raison, franchement, il a raison. C'est limite, on se demande pourquoi ils l'ont mis, quoi.
Parce que là, on peut obtenir des tas de points de compétences dans le jeu hyper facilement. Et là, on a que 13-14 compétences à débloquer dans tout le jeu. C'est la honte, on est d'accord. Donc, ouais, sur ça, je trouve que c'est honteux. Après, je trouve que c'est encore la honte, c'est qu'en allant à l'étang de pêche, parce que oui, les amis, désolé, spoiler, vous pouvez aller pêcher avec Big le chat.
C'est marrant, c'est comme dans beaucoup de jeux où t'as toujours un moment où tu peux pêcher. Même dans Nier Automata, j'ai jamais compris pourquoi ils ont mis un truc de pêche. Mais pourquoi ? Y a quoi avec la pêche ? Dites-moi, répondez-moi.
Parce que la pêche, c'est marrant, d'accord ?
C'est vrai que dans beaucoup de jeux japonais... Tu as des mini-jeux de pêche. En général, je déteste les mini-jeux de pêche. Juste pour recontextualiser, Big the Cat, dont la première apparition remonte à Sonic Adventure 1 sur Dreamcast, lui, son scénario dans Sonic Adventure, c'était des mini-jeux de pêche qui étaient vraiment hyper compliqués. On devait retrouver son pote, la grenouille. Mais bon, à l'époque, le jeu était tellement magnifiquement beau que bon, je trouvais ça marrant. Et là... Petite parenthèse, je rebondis juste sur ce que dit Axel et je te repasse le micro. C'est vrai qu'il y a aussi ce côté bordélique et il y a même plein de trucs, on sait même pas pourquoi on le fait, on sait même pas ce qu'il faut faire. Parfois, il y a des trucs hyper importants qu'on nous explique pas pendant un boss, si on a oublié une manip, alors que durant le jeu, quand on est dans le monde ouvert, on nous rappelle tout le temps les commandes et des trucs super importants qu'on a peut-être utilisé que quelques fois quand c'est vital contre un boss, on nous le dit pas. Voilà, bon, des trucs comme ça. Sur la map, c'est hyper bordélique et rappelle-toi, Axel, t'avais essayé sur ma save. On peut craquer le jeu très facilement. Dès le début, quand on pêche quelques poissons avec Big the Cat, on peut l'échanger contre des améliorations et tu peux booster ton personnage au niveau de la puissance. Alors, je ne parle pas de l'arbre de compétences, hein, je parle du niveau de puissance parce que, comme un action RPG, on peut monter son niveau de puissance, ses capacités de ring, etc. Et tu peux très très vite faire un Sonic très puissant, même si tu n'as débloqué aucune compétence. Hein, et tu peux rouler, c'est le cas de le dire, sur le jeu. Enfin, c'est un jeu qui est très mal réglé. Je repasse...
Mais au final, il est facile ce jeu ou pas ?
Ouais, plutôt, ouais. Mais c'est ça justement de ce que papa a dit tout à l'heure. C'est que c'est le deuxième point où justement ils se foutent de nous. C'est qu'à la pêche, bah justement, en fait, en pêchant tout le temps, tout ça, on peut quasi maximiser. On va dire, si vous passez 2-3 heures, vous pouvez déjà atteindre le niveau 99, le niveau maximum de puissance et de défense.
En 2-3 heures ?
Bah ouais, à force de pêcher tout le temps, t'obtiens des points et puis après tu les échanges. Tu vas voir le coco. Non, je dis rien, tu vas voir le truc qui permet de faire la,
ouais, mais quand
la
même
puissance
en
et défense.
2-3 heures.
Oui, en 2-3 heures, bah.
C'est...
Bah oui, ils se foutent
c'est
de nous.
C'est un peu abusé quand même.
Ah bah voilà, bah ça c'est justement ça, où ils se foutent de nous. C'est justement pour ça que. Bah voilà, on peut en obtenir bah, la puissance et la défense maximum en hyper facilement. Mais après, les boss, des fois, à certains, c'est vraiment chiant. Et puis, moi. En vrai, il y a des boss, ça va. Pour le moment, les boss, je les trouve clean. Mais le fait qu'ils te précisent pas des trucs pendant les boss, mais tu fais quoi au bout d'un moment ? Tu fais rien ou tu bats un boss ?
Il y a des boss vraiment super cool. Mais par contre, il y en a certains où c'est. Donc, il y en a un fameux où il te rappelle pas la commande pour. Une certaine commande, je vais pas spoiler. Que moi, j'ai pas trop utilisé pendant le jeu. Et on me la rappelle pas à un moment clé d'un boss. Et ce qui a fait que j'ai dû carrément aller voir un tuto en disant mais qu'est-ce que je dois faire, je comprends pas. Alors que pendant le jeu, les commandes de base, on te les rappelle tout le temps, tout le temps. Tu peux déclencher des tutos tout le temps. Et là, un truc hyper important, t'as même pas une petite phrase à l'écran. C'est le jeu du déséquilibre, c'est le jeu des extrêmes en fait. C'est soit, comment dire, tout dans le positif, c'est génial, soit tout dans le négatif. Et surtout, il y a des trucs où... En plus de 20 ans, la Sonic Team a encore pas appris certaines choses, quoi. En tout cas, pour ceux qui restent, qu'il y ait des départs. On a souvent parlé qu'Axel de ce. Alors, si vous connaissez Sonic Adventure, il y a ce premier boss, le tout premier avec donc le Chaos là, où si vous vous souvenez, qui est fait de flotte et tout ça, on se trouve dans la ville avec Sonic et lors de certaines attaques, le Chaos monte. Et la caméra filme au niveau des pieds de Sonic et c'est dur d'anticiper les attaques. Bon. On se dit, c'est un jeu, c'était les débuts de la 3D, on peut excuser. Et ben là, moi, j'ai eu un boss, vers un peu plus de la moitié du jeu, c'est exactement ça. Sauf que c'était encore pire. La caméra était au niveau des pieds de Sonic, on battait un géant, une sorte de titan, il l'envoyait, j'avais beau jouer avec la caméra, je n'arrivais pas à la régler, il envoyait des attaques qui te tuaient en one shot, je ne voyais pas où arrivaient les attaques. C'est-à-dire que c'est pas comme... Et là, on parle d'un gars, je dis pas ça pour frimer tout ça, mais... moi j'aime beaucoup les From Software. Là, quand c'est ta faute à toi, même quand un jeu est très dur, si tu dis bon bah c'est le jeu qui est dur, voilà. Mais là, pour le cas de ce boss dans Sonic, il y a 2-3 autres cas comme ça où on tombe dans tous les sens, c'est pas, c'est la faute du jeu. Et là, c'est rageant, c'est super rageant. Sachant que tu demandais si c'était un jeu facile, oui, comme Axel le disait, on peut vite monter Sonic, il y a des parties qui peuvent être très faciles et de but en blanc, tu peux tomber sur un truc où tu meurs en boucle. Alors que c'est la faute d'un système de caméra, d'un truc qu'on ne te rappelle pas. Enfin, c'est voilà, c'est t'as tantôt trop facile, tantôt trop frustrant, quoi.
D'ailleurs, il me semble que c'est à ce niveau-là que t'as lâché le jeu, en fait.
En fait, j'ai rage-quitté parce que il y avait ça, conjugué au fait qu'il n'y avait plus de compétences à débloquer, conjugué au fait que toutes les îles se ressemblent. Et là, du coup, je suis... Alors, d'après ce qu'on m'a dit, je suis un peu plus de la moitié. Je l'ai mis un peu de côté pour continuer à jouer à d'autres jeux, mais je vais le finir. Je le reprendrai après, mais là, c'était l'ascenseur émotionnel, parce que je passais d'euphorie à mode vénère, euphorie à mode vénère. Donc, on va peut-être pas faire 3 heures sur Sonic, mais globalement, si c'est pour conclure rapidement, moi, je le conseille vraiment, parce qu'il y a des grands, grands moments dedans, il y a des moments très énervants aussi. Je pense que c'est un jeu vraiment à picorer, pas passer son après-midi dessus. C'est un jeu à picorer qui a vraiment des phases très addictives, très amusantes, et d'autres qui sont un peu plus, voilà, ouais, et d'autres qui sont passablement agaçantes. Mais globalement, ça reste quand même un bon jeu.
Après, au début, tu savais pas trop où tu t'embarquais, hein. T'as mis du temps avant de l'apprécier quand même, hein.
Oui, c'est ça, tu soulèves un point super intéressant, en fait, c'est parce que les 4-5 premières heures, vraiment, j'étais totalement froid devant, je me disais, mais... En fait, on vous balance sur une île, tu ramasses plein de trucs, ça pop dans tous les sens, et limite, c'est fouillis, en fait. Axel le disait tout à l'heure, c'est bordélique. On dirait un jeu qui n'est pas fini. Par moment, on dirait un grand bac à sable, on a balancé des trucs comme ça. Comme un peintre, vous savez, qui met une toile blanche et qui lance comme ça de la peinture avec la main ou avec des seaux pour voir ce que ça donne. On a l'impression qu'ils ont lancé des trucs comme ça. Il y a des petits ateliers à droite, à gauche, des machins, mais on a l'impression d'errer un peu sans but... C'est foutraque au possible, vraiment, il y a plein de choses, j'aurais dû lister, mais il y a plein de choses totalement illogiques, vraiment, au sein même du gameplay, de ce qu'on te demande. Il y a plein de choses parfois qui sont incompréhensibles, et au bout de presque une dizaine d'heures, je l'ai vraiment apprécié, je me suis éclaté 10 heures, et passé le cap de la 20e heure, là j'ai commencé surtout à rager, parce que tous les soucis, donc je ne vais pas les répéter, que j'ai énumérés là peu avant, là ils me sont m'ont tous éclaté à la figure. Et là, c'est la frustration et l'énervement qu'on pris le dessus. Voilà. Donc, ça aurait pu être pire. Il est mieux que les derniers Sonic 3D. Les derniers qu'on a eu ces dernières années. Mais bon, voilà. J'ai l'impression que c'est un jeu qui n'est pas fini, moi, en fait.
Alors, du coup, on a eu ton avis, mais Axel, parce que je crois qu'Axel aussi, il l'a lâché. Hein. Tu l'as lâché, il me semble. Hein. Donc, du coup, tu t'en penses quoi, toi, au final ?
Bah, en vrai. En vrai, au début, c'est vrai que c'est drôle, quoi. C'est vrai que c'est drôle les dix premières heures parce que c'est cool parce que t'as plein de trucs partout à faire. Donc, niveau contenu ça, de la carte, en vrai, ça passe. Mais après, du point où ils se foutent de nous, c'est que la Sonic Team, ils ont toujours pas appris à faire de bonnes caméras 3D. Alors que pourtant, la caméra 3D, ça fait quand même depuis au moins une vingtaine d'années que tous les studios ont appris correctement à les faire, donc sur ça, c'est très clairement du foutage de gueule. Et puis après, c'est comme si en fait, ils avaient développé comme ça. Ok, alors toi tu mets là, ok, toi tu mets un truc ici, toi tu mets un truc ici, toi tu mets un truc là. Et encore, 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 encore et encore. Jusqu'à la fin du jeu, ça va être tout le temps comme ça. Après, ce qui est bien, c'est que ça va être fun les 10 premières heures, parce que je trouve les boss au début, ça. Franchement, ils sont très cool, le fait de. Tu découvres le monde au fur et à mesure. Mais après, à la fin. Je pense en vrai je pourrais pas le finir parce que au bout de la 20e heure de jeu, tu commences à péter un câble, tous les défauts techniques te retombent dessus en plein dans le crâne. Donc ouais, donc niveau technique c'est nul, les 10 premières heures sont très amusantes, mais au bout de la 20e heure, comme l'a dit papa, tu pètes un câble quoi, zut.
Nous avons donc une unanimité parfaite dans la famille, c'est très bien, ça arrive peu souvent, mais ça arrive.
Oui, voilà, donc c'est bon, c'est vraiment un jeu particulier, mais je pense qu'on a un petit peu tout dit là-dessus. Il y a un jeu aussi, alors là, pour le coup, fallait qu'on en parle aussi, c'est important, parce qu'on y a joué tous les trois. C'est un petit jeu indé qui s'appelle... Un petit jeu indé, d'ailleurs, pourquoi petit ? Non, c'est un jeu indé. Runner Party, or qui n'est pas très, très connu, on va pas se mentir, mais qui est sympa, qui est plein de promesses, c'est un... Il est encore en early access, hein, si je puis dire. Voilà, ça se voit un petit peu parce que, voilà, si vous me suivez à l'époque de la revue de presse JV, vous savez que même quand je parlais de jeux, je ne vous mentais pas. Quand on me demandait de parler de jeux, si je trouvais qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, je le disais. Bon, d'ailleurs, ça n'a pas forcément toujours plu à tout le monde, mais nous, on préfère être super sincères. Quand ça nous plaît vraiment, on le dit. Là, ce jeu-là, je vais dire ma conclusion maintenant. Je fais une sorte de teasing, voilà. Une sorte de flash-forward de la critique. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais j'ai trouvé le jeu assez amusant. Mais par contre, visuellement, il faut étoffer un petit peu. Moi, je trouve que ça fait un peu trop jeu flash, à mon avis. Le concept, il y a encore beaucoup de réglages à faire en termes de game feel, surtout en termes de level design et des options, etc. Par contre, moi je me suis bien amusé. Franchement, quand on y a joué, j'ai pas vu le temps passer, donc c'est plein de promesses. Je pense qu'il faut encore peaufiner. C'est un jeu français, un runner party. Est-ce que, madame maman, tu veux nous rappeler brièvement, sans faire 3 heures de description, parce que finalement c'est un concept très simple, le principe de ce jeu-là. C'est que sur PC, en early access, c'est que sur Steam, hein, je crois.
C'est ça. En fait, là, le jeu est en développement encore, donc c'est pas anormal en fait que toutes les critiques que tu c'est pas anormal toutes les critiques que tu soulèves parce que ça fait un moment qu'ils sont dessus, mais c'est une petite équipe, ils sont que 5. C'est l'équipe de Crear Studio qui, moi, je trouve, a fait un travail assez sympa. Moi, j'aime beaucoup la direction artistique. J'aime beaucoup la direction artistique. Tout est en dessin. Et en fait, c'est un party game multi où on peut jouer donc en local ou en online. Donc pour l'instant, le online n'est pas disponible, sauf via le Steam Remote Play. Vous pouvez jouer que en local pour l'instant, mais vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs. Et moi, je trouve que c'est le jeu idéal pour une soirée entre potes. Vous vous lancez dans une course. Alors, le principe, en fait, c'est que vous arrivez dans une salle d'arcade et vous avez devant vous... un peu plus loin, vous avez Léon et Mathilda. Devant vous, vous avez Vincent Vega et Jules Winfield qui sont en train de bouffer un burger. Avez des bornes d'arcade. Indiana Jones, il n'est pas dans le décor, mais... Et vous avez des bornes d'arcade, en fait, qui reprennent des grands classiques des années 80-90, que ce soit en film ou en jeu. Donc, vous avez Kubrick, par exemple, qui parodie Tetris. Vous avez Rider of the Lost Ark. Il y a beaucoup de références comme ça. Donc là, pour l'instant, il n'y a que 5 mondes disponibles. Et dans chaque monde, vous savez, parce que ça se voit, il y a marqué Coming Soon. Donc quand vous lancez le jeu, vous savez qu'il y aura plusieurs niveaux dans chaque borne d'arcade. Mais pour l'instant, c'est vrai que le jeu est avancé, mais pas trop. Donc c'est vrai qu'on n'a que la moitié des mondes disponibles, parce qu'il va y en avoir, il va y avoir 10 bornes d'arcade au final. Ça manque un peu de réglages, mais l'équipe est en train de s'en occuper. Donc franchement, tous les trois, on s'est bien éclatés. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'avoue que bon, on s'est pris des tollés et tollés par Axel, qui lui a très vite compris comment ça marchait et est très fort à ce genre de jeu. Donc on s'est pris tollé sur tollé avec son père. Surtout moi d'ailleurs, parce que c'est toujours moi la première à perdre, vu que je suis pas très bonne. Mais moi, je me suis éclatée rien que pour voir les références. Alors, il y a un panel de personnages, par contre, qui est extra dès le départ. C'est qu'il y a 35 personnages, dont un personnage, moi, qui m'a fait beaucoup rire quand je l'ai vu, c'est que dans les personnages jouables, vous avez Marcus. Notre Marcus national qui est dans les personnages jouables. Donc, c'est extrêmement marrant d'incarner Marcus. Et du coup, moi, ça m'a fait beaucoup rire de perdre avec Marcus parce que voilà, j'avais l'impression d'être dans level 1. Donc, c'était très marrant. Et toi, Axel, du coup, t'en as pensé quoi?
En vrai, le jeu, il était très marrant pour vous avoir foutu une raclée. Ouais.
En fait, c'est pour ça qu'il le trouve marrant, c'est parce qu'il nous a foutu la raclée.
Exactement. Et maman, d'ailleurs, c'est totalement honteux que tu n'aies pas gagné un seul round. On dirait comme si t'avais déclaré forfait.
Ouais, oh, c'est bon, hein.
Non, t'as déclaré forfait. Donc, du coup, le jeu, il est très bien entre potes. Et oui, je suis un vanneur dans cette émission, mais voilà, j'adore vanner. Donc, le jeu en vrai, ça a l'air sympa. Le problème, c'est qu'en fait, c'est lassant à force. C'est que oui, c'est bien à faire entre potes, quoi. Mais en fait, le problème, vous l'achetez vite fait. Vous faites plusieurs parties à force. Et à force, oh, c'est bon, ça me saoule. Et puis après, vous le désinstallez, en fait. Le problème, c'est que en fait, le jeu, il est bien. Il est bien. Alors, après, c'est la version bêta. Donc, ce test ne peut pas vraiment être confirmé. Mais en vrai, pour le moment, de ce qu'on pense, c'est que c'est bien pour le moment, mais j'ai le pressentiment qu'à force de faire des parties, ça va être très lassant. C'est un pressentiment. N'oubliez pas que ce test n'est pas confirmé, quoi, parce que c'est la version bêta.
Après, ça dépend de ce qu'ils vont rajouter derrière. Peut-être qu'ils vont rajouter des items. Ah oui, alors parce qu'il faut savoir que vous faites la course. Donc le but, en fait, c'est de faire sortir vos adversaires de l'écran. C'est-à-dire que si vous allez assez loin, en fait, vos adversaires sortent de l'écran et ils sont éliminés. Mais comme dans un Mario Kart, vous pouvez ramasser au cours des niveaux des items qui vous permettent... Alors, vous avez une boule de feu qui permet de cramer l'ennemi qui est devant. Vous avez une autre boule que vous lancez qui vous permet d'échanger votre place avec lui. Donc, vous passez devant. Vous avez des trucs qui vous rendent invincible. Vous avez plein de petits items comme ça. Et suivant ce qu'ils vont rajouter, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu redondant. Il faut reconnaître ce qui est. Mais moi, je dis, pour des parties entre potes, fun comme ça, c'est pas le jeu où vous allez passer 3 heures d'affilée, hein, on va pas se mentir. Mais les parties sont courtes. Et moi, je dis, franchement, ça peut faire le taf pour des petits moments fun.
Donc oui, pour rectifier un peu ce que disait Axel, c'est pas une version bêta, hein, c'est une early access. Donc le jeu est déjà disponible, peut être joué, il va être amélioré. Donc bon, je pense qu'on a un petit peu tout dit. On peut conseiller aux gens de... Alors, est-ce que pour se procurer cette version bêta, pour ceux qui voudraient se la procurer sur Steam, quel tarif est-ce que tu te souviens? Alors, pendant que Madame Maman regarde, hein, vous savez, c'est comme si vous étiez avec nous, hein, autour de la table, hein, on est à la bonne franquette, comme on dit. Juste pour rappeler, je reviens vite fait sur Sonic Frontier, on a oublié de le rappeler, mais Sonic Frontier est disponible quasiment partout, hein, voilà, sur toutes les consoles, sur PC, etc. Voilà, j'ai oublié de le préciser. Pendant que Madame Maman regarde de quel prix est Runner Party.
Oh, il est à 9,75€.
Ouais, alors 9,75€, ça peut vraiment là se laisser tenter, effectivement. Surtout que le concept est vraiment sympa en plus, hein, le fait de faire sortir son personnage de l'écran. Enfin, son personnage. Le personnage de l'adversaire, pardon. De l'écran. C'est juste que voilà, ça manque un petit peu de... Voilà, on sent qu'il manque encore 2-3 trucs. Mais vraiment, je trouve que le concept est prometteur, quoi. Donc c'est déjà bon signe, j'ai envie de vous dire. J'aimerais parler, avant que Axel nous parle d'un jeu de sport, et oui, parfois on parle de jeu de sport ici, c'est rare mais ça arrive. Alors là, c'est un peu moins family, mais je vais vous parler d'un jeu qui est censé faire peur, mais techniquement, bon, il fait pas si peur que ça, il est plus stressant. Il y a 2-3 images un peu sanguinolentes, mais c'est du gros pixel art, hein, donc c'est pas du photoréalisme. Ça s'appelle Signalis, c'est une sorte de survival horror en vue de dessus, mais en qui reprend un peu l'esthétique PlayStation 1, voilà, avec de la 3D mais vue de dessus. Alors tout à l'heure j'ai dit c'est du pixel art parce qu'il y a des scènes cinématiques parfois qui mélangent pixel art et 3D, mais c'est très rudimentaire visuellement. Donc bon, c'est vraiment, y a pas de quoi traumatiser, je pense, non plus des générations. Mais c'est un jeu vraiment très intéressant. Moi, franchement, je trouve que la presse n'en a pas assez parlé. Moi, je l'ai connu grâce à certains comptes qui parlent d'horror game, qui l'ont vraiment mis en avant. Quand je parle de comptes, je parle sur Twitter. Et j'ai dit, tiens, ça, c'est vraiment, ce serait ma cam, ça m'intéresse. Et c'est un jeu qui pille énormément au vieux Resident Evil, au vieux Silent Hill. Mais ça fait pas vraiment peur, mais c'est juste l'ambiance qui est vraiment oppressante. Alors, je n'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais on a une héroïne, on est dans une sorte de voilà, on est dans des dédales de couloirs, de salles. C'est, il y a de Resident Evil, on retrouve un peu cette économie de balles. Il faut vraiment faire très attention, il faut économiser ses balles voilà, pour se défendre contre des monstres qui, la plupart du temps, ont des formes humanoïdes et là font penser à ce traitement un petit peu qu'à la série Silent Hill. De Silent Hill, il y a beaucoup de choses qui sont reprises, il y a même carrément des hommages d'énigmes. On retrouve des énigmes un peu similaires, des monstres un peu similaires, des ambiances sonores un peu similaires. Parfois, on a des sonorités très métalliques comme ça qui viennent rythmer un peu nos pas. Et là, tout de suite, bon, bah, quand on connaît Silent Hill, on reconnaît tout de suite le truc. C'est un jeu qui se finit assez vite. Je crois que j'ai dû mettre une dizaine d'heures. Il n'y a pas vraiment de choses insurmontables. Ce qui est assez intéressant, si vous êtes un ancien comme moi, c'est qu'il y a des énigmes qui nécessitent de prendre des notes. Alors, maintenant, souvent, on prend des screens hein, avec son smartphone, mais c'est ce que j'ai fait pour passer certaines énigmes. Enfin, voilà, Signalis, c'est disponible un peu partout. Moi, je pensais que c'était que sur PC. Je l'ai trouvé sur le PS Store, donc j'ai pu y jouer sur PlayStation 5. C'est vraiment un très très bon jeu pour une vingtaine d'euros si vous êtes fan de Survival Horror. Je vous le conseille, vraiment très belle ambiance et très soigné. C'est un petit studio qui a fait ça, je crois qu'ils sont que deux si je dis pas de bêtises, alors peut-être que je me trompe hein, vous me rectifierez le cas échéant, mais ouais voilà, vraiment bon moment sur Signalis que je vous conseille. Vérifiez un petit peu sur Google avant si c'est votre cam visuellement au niveau de l'ambiance, c'est vraiment à l'ancienne. Il révolutionne rien, mais il est très très plaisant à jouer quoi. Voilà. Donc Signalis. Et Axel a découvert enfin je joue avec lui, moi qui jouais il y a 20 ans de ça, moi je jouais il y a une période où je jouais beaucoup à PES avec des copains. Là, je me suis mis un peu à FIFA pour Axel qui oui, c'est vrai, il y a quelques années, j'avais joué à
FIFA 18.
C'était FIFA 18, voilà, merci Axel parce que le mode scénario, je l'avais trouvé très sympa. Voilà, pourtant moi qui suis pas jeu de sport du tout. Et là, du coup, Axel a voulu se mettre sur FIFA 23. C'était un de ses cadeaux de fin d'année. Et rapidement, bon, tout le monde connaît FIFA, la simulation de football. Mais est-ce que tu peux nous dire, toi, je pense qu'il serait intéressant, c'est t'expliquer à ceux qui nous écoutent pourquoi toi ça te plaît.
Bah, moi ça me plaît parce que, bah, en fait, je vais vous dire la vérité. Depuis qu'il y a eu la Coupe du Monde au Qatar 2022, quoi, le fait que l'Argentine. Et a été nommé injustement champion du monde. Donc, voilà.
Pas de polémique dans cette émission.
C'est pas mon problème. Du coup...
Oui, c'est le
mien. Donc, du coup, en fait, c'est surtout après avoir revu la Coupe du Monde Qatar 2022 que ça m'a redonné envie de jouer à FIFA. Parce que c'est vrai que je me rappelle d'avoir eu un souvenir à la Coupe du Monde de 2018, quand la France l'a gagné. Je me rappelle, j'ai allé monter en ma chambre... Et il écrit comme ça, ouais, on est champion du monde. Enfin bref, voilà. Et après avoir revu la Coupe du Monde 2022, bah ça m'a fait replonger dans le foot alors que j'avais totalement abandonné quoi. Du coup, au début j'ai eu FIFA 22 avant FIFA 23 qu'on a eu sur le PS Plus, on ne sait pas où d'ailleurs. Et après il y a eu FIFA 23, j'ai vraiment eu envie de l'avoir parce que c'était l'actualisation, voilà. Donc après moi j'aime bien parce que moi faut savoir au fond, même si là en club je fais du basket, pas du foot. Au fond, j'adore le foot, fait d'incarner les clubs tels que le PSG, l'OM, tout ça. D'ailleurs, vous êtes pour qui, PSG ou l'OM? Moi, PS, le PSG, parce qu'il y a Mbappé, Messi, Neymar, voilà, tout ça. Bon, c'était un petit hors-sujet. Le fait de pouvoir incarner des clubs tels que le PSG, le Real Madrid, Manchester United, enfin bref, tout ça. Moi, ça me plaît vraiment. Fait de jouer à des matchs, tout ça, je trouve ça vraiment fun. Il y a plein de modes de jeu partout. On a les matchs classiques, enfin, à la base. On a FIFA Ultimate Team, vous connaissez c'est forcément les youtubeurs qui pack toujours le joueur FIFA, qu'on crée son équipe, on affronte des joueurs en ligne, tout ça. Et puis je jouais avec mon père qui lui, moi je suis team le PSG et qui lui est team Juventus. On est des Italiens.
Italien de base, hein.
Ouais, donc on est Italien, donc voilà, c'est tout à fait logique. Et, donc voilà, moi c'est vraiment FIFA, c'est la base, on est d'accord. Pour tous les gamers actuels de 2023, actuellement, aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, c'est une base FIFA.
Je vous dis pas comment je suis à la fête en ce moment.
Ah ah, c'est normal. Donc bref, moi vraiment FIFA, je kiffe, évidemment je vous recommande parce que bon, c'est la base quand même. Oui, et je m'en fous de me répéter, je le redis, c'est une base tellement incroyable, c'est même tout un univers. Et malheureusement, c'est triste, ce sera le dernier. Parce que après, la FIFA demandait trop d'argent, c'était quasi 150 millions d'euros, et donc EA a dit non. Donc après, ce sera remplacé par FC Football ou je sais pas quoi. Donc on va dire honneur au dernier FIFA, et puis voilà quoi.
Après, c'est pas parce qu'ils changent de nom que le jeu sera moins bon, hein.
Ah non, non, c'est juste, c'est pas officiel, hein, mais il y a des rumeurs comme quoi ça a passé free to play.
Oui.
Alors la somme, je l'ai plus, hein, donc je peux pas confirmer ou infirmer la somme. Mais oui, ce qui est sûr, c'est que la FIFA va devenir un peu en mode free-to-play. Et c'est surtout qu'EA ne voulait plus reverser cette somme astronomique à la FIFA, la Fédération Internationale de Football, quoi, tout simplement. Voilà, donc moi, je m'éclate bien. Alors, c'est marrant, c'est que des fois, il me met, alors plus souvent quand même, il me met des grosses tôles. Parfois, j'en ai mis aussi quelques-unes. Mais c'est sûr qu'avec Mbappé dans l'équipe, hein, quand il commence à courir vers ta surface de réparation, c'est dur de le rattraper, quoi.
Ouais, mais d'un autre côté, au goal, t'as Gianluigi Buffon.
Non, j'ai pas Buffon.
Bah, il fait pas partie de l'équipe de
Non, mais moi, c'est la Juventus, c'est pas l'équipe nationale. Et puis même dans l'équipe nationale, non. Il y est plus.
Ah non, Buffon est parti.
Là, t'es en train de retard, chérie, là.
Oh là là, mais toi, t'es genre...
Bah moi, je pensais que c'était... Tu pouvais encore... Même s'il était à la retraite, tu pouvais encore... T'as bien Pelé et Maradona.
Oui, mais ça, c'est dans les modes All-Star. Là, nous, on joue dans les modes avec...
Il est dans le Soccer Aid.
Là, on est dans les modes. D'ailleurs, petite pensée pour Pelé.
Il est mort.
Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Bref, bon, on va conclure avec FIFA.
C'est bien, je viens encore de m'afficher, c'est cool.
Yeah. Donc, voilà. Donc, le goal de la Juventus, je sais même pas qui c'est. Le goal du PSG, c'est Donnarumma, tout ça. Oh, bon, c'est bon, j'arrête, je conclue.
J'ai coupé. C'est bon, t'entends plus. Non, je rigole.
Ah pardon. Donc. Oh mais laissez-moi conclure.
Non.
Ah, oh, vous êtes chiant.
Bon allez, tu te grouilles.
Eh, hey, t'es chiant. Bon, ok. Je conclue avec ce débat interminable.
C'est la base. C'est ça.
Mais arrête, toi. Oh, tu me saoules. Pardon. FIFA, je kiffe de fou. Hein. Si vous êtes fan de football, prenez-le parce que PES. Ne sert absolument à rien. Le dieu aujourd'hui, c'est FIFA, d'accord? Et puis voilà. Donc FIFA, c'est vraiment le jeu des vrais, quoi. Si vous aimez vraiment le football, c'est le jeu des vrais. En fait, il n'y a même pas de conclusion parce que tout le monde connaît déjà la véritable conclusion des FIFA.
Amen.
PES, c'était vachement bien. Dans les années 2000. Alors?
On peut enchaîner avec des vrais jeux au bout d'un moment ou...
C'est
oh là là!
Tu prends un remaster de Crisis Core, ça va faire quoi? La majorité des gens du monde s'en foutent un peu.
On va finir l'émission avec nos jeux de l'année. Ça va être très rapide. Elden Ring, merci de nous avoir suivis et au mois prochain!
Non, je m'élève en faux, c'est pas vrai! Moi, je cautionne pas ça! Hein.
Le mois prochain, les amis.
Déjà parce que je suis même pas capable de faire 3 pas dans Elden Ring sans me faire buter, alors c'est mort.
On aurait dit pef
parce
dans...
Parce que tu n'es pas une hardcore de gameuse, zut, faut que t'évolues quand même.
Une hardcore de gameuse, ah je kiffe.
On aurait dit pef dans la cape et l'épée, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, alors. Si on commençait par nos coups de cœur de l'année et nos prefs, nos GOTY, on les met à la fin.
Ouais.
D'accord. Alors, j'ai dans ma liste, j'ai dans ma besace...
Parce que je me rappelle plus ce que j'ai dit.
Alors,
c'est quoi ça ?
Dans les coups de cœur, je crois que c'est un coup de cœur qu'on a peut-être tous les deux, peut-être pas tous les trois, parce que t'as pas à ce point-là. Dans les coups de cœur de l'année 2022, on en a parlé dans l'une des émissions, je vous renvoie donc, comme je disais, à nos anciennes émissions, N'hésitez pas à partager, merci, c'est gentil. C'est Stray, le jeu avec le chat.
Ah, si.
Ah, donc c'est un coup de cœur aussi pour toi, 2022.
Alors, moi, c'est pas parce que j'ai des problèmes avec les ennemis qui me font mal physiquement quand je les vois s'attaquer au chat, parce que je suis très très empathique. Mais j'ai pleuré, moi, à la fin de Stray. J'ai pleuré, je l'ai fait.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Kirby encore dans cette émission.
Oui, c'est vrai que ça fait longtemps, Maître Huissier, qui nous écoute depuis tout à l'heure. Là, elle est assise, elle nous regarde.
Bonjour, et t'es avec nous depuis 3 ans.
Bon, je peux continuer ?
Est-ce que tu peux rappeler en quelques mots le principe de Stray en quelques mots ?
Chat.
Attends, je vais dire un truc. En quelques mots ?
Chat, seul, robot. Chat, seul, robot, extérieuriste.
Bah, je ferais jamais mieux. Non, en fait, c'est un chat qui est séparé de sa meute de chats, en fait.
Après avoir foiré un saut.
Et qui se retrouve.
Comme un gros nul.
Ouais, aller quelque chose comme 50 mètres plus bas dans une espèce de ville qui est totalement enfermée sur elle-même.
50 mètres, mais c'est un
avec des
dessous,
avec une ville qui est entièrement peuplée de robots où apparemment les humains ont tous disparu et il va devoir essayer de avec l'aide d'un petit robot qui a la mémoire d'un humain trouver un chemin pour remonter à la surface et pour ressortir dans le monde extérieur, voilà.
Il se rappelle même plus de son prénom lui-même le robot.
Oui, et puis il y a toute une histoire et puis c'est poignant, c'est vraiment
c'était
poignant. Et c'était un très et franchement, c'était un très très beau jeu. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, il m'a fait beaucoup pleurer d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que les ennemis quand ils attaquent le chat, moi à chaque fois en sentir les vibrations dans la manette, ça me hérisse le poil.
Après voilà. Super direction artistique. Le seul point où on est en désaccord avec Natacha, c'est la musique. Moi, j'ai trouvé la musique sublimissime. Toi, t'as pas aimé la musique. Voilà, donc on le conseille. C'est de l'action, c'est de la recherche, de l'exploration, un petit chouille d'énigmes. Mais vraiment, le chat est adorable. Le gameplay est top. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Tiens, en parlant de chat, là, Kirby qui se pointe. Moi, je vais parler de Turrican Anthology. J'ai enfin reçu. Donc, j'en avais parlé. Là...
Moi, j'avais même pas parlé de Stray en plus.
Ah oui, c'est vrai qu'Axel n'a pas encore parlé de Stray. Voilà, donc on va respecter Axel, on va lui passer le micro.
Donc déjà, avant ça, je vous remercie de ne pas me respecter. Vraiment, c'est super adorable. du coup, bah, Stray, moi, je ne l'ai pas fini. Parce que bah, trop la flemme, en fait. Et bah, en vrai...
Bah, bravo le coup de cœur, hein.
Ouais. Donc,
l'info était très bien.
Voilà, super. Bah, Stray, j'ai kiffé, hein.
Les menus, je me suis régalé dans les menus.
Oh là là, arrête! Donc je disais, oui, j'ai vraiment bien kiffé. Et ouais, bon, c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir le chat se faire allumer. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. C'est les développeurs qui ont décidé. Le fait que la poursuite dans les égouts et tout ça, de pas faire repérer par les autres dans le centre-ville, tout ça. Donc
là, vraiment, j'ai un petit son là.
Donc oui, franchement, je kiffe. Et puis bah, je vous recommande. Et encore merci de ne pas m'avoir respecté.
Serait-il rancunier celui-ci ? Donc moi vite fait, j'en ai parlé, c'était en début d'année, j'avais enfin reçu après plus de 2 ans d'attente mon coffret Turrican Anthology. Donc si vous êtes fan comme moi de ce run and gun d'anthologie, c'est le cas de le dire. Hein. Donc vous retrouvez toute la série, j'en ai parlé, c'était dans une émission en début d'année, donc je vous renvoie à ça, voilà. Je refais un petit coup de cœur vite fait parce que là, je voulais pas faire 3 heures dessus parce que Turrican Anthology, j'en parle vraiment beaucoup dans l'une des émissions. Un jeu dont je n'ai pas parlé, c'est une sacrée découverte pour cette fin d'année. C'est Assassin's Creed Valhalla. Moi, je l'ai découvert grâce au programme PlayStation Plus Premium, sachant qu'il a, pendant que j'y jouais, il a quitté le programme Premium, mais j'ai tellement adoré, je dois avoir 130 heures de jeu actuellement, que je l'ai acheté. Ça tombe bien, il était en promo. Écoutez-moi, qui n'avait pas aimé les débuts de la série Assassin, j'ai adoré ce jeu. Là, c'est le dernier de la trilogie action RPG, en fait, monde ouvert d'Assassin, qui avait changé vraiment de direction avec, justement, il y a Origin, il y a Odyssey, et donc Valhalla. Et du coup, j'ai tout adoré, vraiment. Le personnage principal que j'ai fait en version féminin, donc Eivor, l'univers, le gameplay, tout. Enfin, vraiment, j'ai adoré d'un bout à l'autre, vraiment. Malgré les quelques petits bugs qu'ont tous les mondes ouverts, et les Assassin's Creed ont souvent des bugs, ça on le sait. Mais à part ça, vraiment, j'ai tout adoré, j'ai plongé dedans, je ne peux pas vous dire mieux. Enfin, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. qui me fait vraiment, là, pour le coup, m'intéresser à la série, aux récents épisodes et puis à ce qui va venir. Donc vraiment, ça a été un grand, grand moment pour moi, Assassin's Creed Valhalla, donc je vous le conseille. Je vais juste dire un nom, je vais laisser Madame Maman en parler, un jeu qui a pas toujours été, je vais parler d'un autre jeu qui a pas toujours été accueilli de manière très très positive, enfin, ça dépend les publications, ça dépend les sites par la presse, c'est Ghostwire Tokyo, un jeu qui est paru en début d'année du studio de Shinji Mikami, Tango, que moi j'ai adoré, c'était en début d'année, hein. C'est janvier-février, je crois.
Peut-être.
Je sais plus. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'avoue, j'ai beaucoup aimé Ghostwire Tokyo. C'est pas mon GOTY de l'année, donc je l'ai pas mis dans la liste parce que voilà. Mais
là, c'est pas les GOTY, on est dans les coups de cœur.
Oui, mais c'est pas.
Moi, c'est un coup de cœur.
C'est pas un coup de cœur non plus parce que j'avais un coup de cœur plus coup de cœur à mettre, si tu veux. Mais j'ai beaucoup aimé Ghostwire Tokyo, un peu comme Centennial Case. Hein. C'est des jeux qui sont totalement différents, mais que j'ai autant aimé l'un que l'autre. Il est vraiment extrêmement bien. Ce jeu, il est vraiment extrêmement bien, mais moi, plus dans les coups de cœur, si j'avais dû en mettre un... D'ailleurs, je ne sais même pas si on a fait mes coups de cœur à moi, d'ailleurs. Ghostwire Tokyo, en fait, c'est un action RPG, on peut dire ça, où en fait, vous incarnez un gars qui vient de mourir et dont un fantôme se loge dans le corps pour essayer de sauver... De sauver Tokyo qui est sous l'emprise d'un exorciste qui transforme tout le monde, soit qui les fait disparaître, soit qui transforme les gens en yokai. Et vous allez, avec les pouvoirs de ce fantôme qui va vous prêter, vous allez devoir combattre cet exorciste. Et c'est en vue FPS, et bizarrement, pour une fois, voilà, et on utilise ses mains pour tracer des signes, et pour une fois, j'ai pu y jouer parce que. Et ben j'ai pas eu la cinétose, donc j'étais assez contente de ça, et c'est une très 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 belle découverte, franchement j'avais beaucoup aimé. Ouais.
Et donc, toi ton gros coup de cœur, Stress était un coup de cœur commun, et avant de parler vraiment de nos GOTY, donc toi ton deuxième jeu préféré on va dire de l'année, puisque là on n'est pas encore au GOTY, ton gros coup de cœur Madame Maman, toi c'est Bayonetta 3, on en a beaucoup parlé lors de la dernière émission, mais j'ai juste peut-être rappelé deux lignes pourquoi c'est un gros coup de cœur.
Ah bah moi Bayonetta 3 c'est Bayonetta 3 quoi, c'est la classe incarnée, c'est la sorcière la plus badass qui soit. Moi franchement Bayonetta, je suis cliente depuis le premier et je trouve que c'est une excellente conclusion ce Bayonetta 3. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le prochain là, avec le spin-off Cereza and the Lost Demons. Que j'espère bien pouvoir tester, mais non Bayonetta 3 c'est un peu Devil May Cry, mais au féminin. Moi, je kiffe à mort et c'est un gros coup de cœur de cette année. Alors, je sais qu'il n'a pas plu à tout le monde. Moi, je sais qu'il y a des choses qui ne m'ont pas vraiment plu dedans, mais ça reste un gros, gros coup de cœur et je suis vraiment contente d'avoir pu jouer à cet opus-là, qui conclut, ma foi, assez logiquement la série et assez bien. Moi, j'aime beaucoup. Et je crois qu'Axel, il a aussi eu un coup de cœur cette année, il me semble.
Après, un coup de cœur, j'irai à Goat Simulator 3. Et en vrai, le jeu, c'est la suite de Goat Simulator. Donc oui, je l'ai déjà dit dans le précédent Family Pack, j'ai énormément kiffé. Donc oui, ce jeu m'a vraiment plu. Après, un autre coup de cœur, après Horizon Zero Dawn aussi, je voudrais bien voir le Forbidden West pour voir à quoi il ressemble en fait. Même si j'ai trouvé que la fin d'Horizon Zero Dawn était un peu raide, quoi. Mais bon, à part ça, c'est vraiment le jeu exceptionnel. Donc voilà à peu près c'est tout ce que j'ai comme idée.
Et c'est déjà pas mal.
Bon pour nos GOTY, moi vous le savez, je vous ai déjà bien saoulé avec. Moi c'est Elden Ring, hein, c'est pas une surprise, hein, c'est un jeu.
C'est étonnant.
Mais c'est un jeu tellement incroyable et cette sensation de jouer à un jeu qui révolutionne le game, on s'en rend compte en y jouant et que des millions de joueurs à travers la planète sont d'accord, enfin sont en osmose là-dessus. C'est un jeu vraiment qui, à l'instar de Breath of the Wild dans son temps, réinvente le concept de monde ouvert, puisque là, ça, c'est un peu comme si Breath of the Wild rencontrait Dark Souls, quoi. Donc, il y a la rigueur d'un Dark Souls, d'un Bloodborne, sauf que là, c'est quand même plus ouvert, c'est le cas de le dire. Et donc, on peut le prendre vraiment d'une manière un peu plus souple, même si ça reste très, très, très quand même... comment rigoureux, hein, il faut vraiment ça rigole pas quoi, mais c'est un jeu d'une tout est formidable dans ce jeu là. Je vais peut-être pas encore faire 3 heures de discours parce que Il y a un Family Pack pour ça, et ceux qui me suivent sur Twitter, je vous ai déjà bien gonflé avec ça, je vous ai bien saoulé avec ça. C'est un jeu exceptionnel, c'est un jeu qui a fait date, et moi, Elden Ring, c'est vraiment, dans cette année, qui a été vraiment très très bonne, je trouve, en 2022. Pour moi, c'est vraiment celui voilà, qui arrive en numéro 1. Pour Axel, c'est pas un jeu qui est sorti en 2022, mais ça a été une belle découverte. Moi, c'est en tout cas, de mon point de vue de papa, c'est le jeu où je t'ai vu le plus enthousiaste cette année. C'est le Spider-Man donc, de la PS4 que tu as découvert là cette année, plus Miles Morales sur PS5 et PS4 aussi. Donc, tu en as beaucoup parlé dans Family Pack, mais peut-être, tu veux peut-être nous en dire deux mots pourquoi tu as autant kiffé le Spider-Man de la PlayStation.
Parce que l'histoire, en fait, le système de combat, tout ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Ce qui est bien aussi, c'est que le jeu... l'histoire, en fait, c'est pas lassant. Les histoires, elles ont beau être plutôt courtes. Le jeu, c'est vraiment pas lassant. Plus pour le pro... En plus, pour le premier Spider-Man, il y a des DLC aussi à faire. Je vous conseille vraiment, il est incroyable, quoi. Donc, moi, personnellement, j'ai kiffé. Je sais pas si vous avez kiffé, je pense très clairement que oui, donc... J'en ai déjà parlé aussi dans un Family Pack, donc pour avoir un avis plus détaillé, faudra aller le voir. Allez, donc toi, maman, ton GOTY, c'est quoi d'ailleurs ?
Et moi, mon GOTY, c'est Fuga. Alors, c'est un jeu qui n'est pas sorti cette année, c'est un jeu qui est sorti en 2021, je crois. Moi, c'est vraiment un jeu qui m'a pris aux tripes. Il m'a toujours attiré plus ou moins ce jeu. Mais je l'ai commencé après avoir fait l'interview de Hiroshi Matsuyama. Et en fait, je suis tombé dedans et j'attends Fuga 2 avec une impatience non dissimulée. D'ailleurs, il devrait être annoncé le 24 janvier. Ils font un événement le 24 janvier, donc on devrait savoir enfin la date de sortie de Fuga 2. Mais moi, c'est un jeu qui m'a fait pleurer. C'est un jeu qui m'a... il est prenant, il est magnifique. Les musiques sont superbes. Ces enfants, ils sont super attachants. C'est des cas de conscience à n'en plus finir et j'ai adoré ce jeu, je ne l'ai pas lâché jusqu'à la fin. J'ai réussi à finir le jeu avec seulement 2 enfants en moins, non pas parce que je les ai sacrifiés de mon plein gré, mais parce que je n'ai pas eu le choix. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que quand on ne développe pas assez les relations entre les personnages, ça modifie un peu la fin d'histoire et ce qui s'y passe. Et en fait, moi qui pensais qu'il suffisait juste de ne pas les envoyer au canon des âmes pour les garder tous vivants, je me suis fait avoir. Parce qu'à la fin, il vous donne plus le choix, quoi. Bref, toujours est-il que moi, c'est vraiment mon GOTY de l'année. Et moi, je le conseille à tout le monde. Mais découvrez-le, c'est une perle, ce jeu. Une perle.
C'est un jeu dans l'univers de Tel Concerto, hein, on va rappeler.
Red The Hunter. Et de Red The Hunter aussi.
Oui, et puis il y avait aussi le jeu...
Solato Robo.
Solato Robo, voilà. Tous ces jeux-là, avec donc ces animaux anthropomorphiques très mignons. Ce qui rend justement le scénario d'autant plus poignant à la fin. Tous ces jeux-là, on va rappeler sur quoi ils sont dispo quand même. Alors de mémoire, Bayonetta 3, ça c'est facile, c'est Switch, hein, parce que c'est Nintendo qui a financé, comme le 2. Assassin's Creed Valhalla, vous le retrouvez partout. Turrican Anthology, vous le trouvez, c'est un coffret collector, donc c'est un peu plus compliqué, mais vous avez aussi les vieux Turrican qui sont disponibles indépendamment sur les stores. Stray, c'est dispo à peu près partout. Ghostwire Tokyo, c'est dispo à peu près sur toutes les machines. Ouais. Elden Ring est dispo, là donc on arrive au GOTY, Elden Ring est dispo à peu près partout. Spider-Man par contre, ça c'est PS4, PS5, c'est tout. C'est PlayStation, ainsi que sur PC d'ailleurs, oui, j'allais oublier. Et Fuga, c'est dispo sur à peu près tout, je crois. Je crois qu'il est à peu près partout. Il y a juste sur le PC où j'ai un petit doute, mais... alors attendez, on va regarder en temps réel, en direct live différé. Nous allons vous dire cela. Bougez pas, nous sommes là. N'ayez pas peur, on est là. Switch, PS4, Xbox et PC. Non, il est... Fuga est dispo partout, donc ça, c'est très bien. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette émission, cette première de 2023. L'occasion de vous remercier à nouveau de nous suivre. Hein. N'hésitez pas à parler de l'émission autour de vous, de la partager un maximum. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions pour l'améliorer, pour en faire peut-être mieux la promotion, je ne sais pas. N'hésitez pas à nous en parler sur les réseaux sociaux, on est dispo partout. On vous remercie de nous avoir écoutés. Jouez bien, jouez en famille, parlez-en, c'est important. Des jeux auxquels vous jouez, débattez, ça c'est toujours très sympa. Axel, 12 ans, je te remercie pour toutes tes analyses et tes clashs absolument explosifs.
Je dirais 12 ans 3 quarts.
Oh, mais il n'y a pas de quoi. Hein.
12 ans 3 quarts, oui, parce que mois de mars... C'est l'anniversaire d'Axel, donc j'espère que vous penserez à lui souhaiter. Sinon, on boudera très fort derrière nos micros. Et madame, maman, merci encore.
Merci, bah écoutez, jouez bien jusqu'à la prochaine émission et au plaisir de vous retrouver, hein, comme toujours. Nous, on s'éclate toujours autant à faire l'émission, donc on espère que vous avez toujours autant de plaisir à nous écouter.
Maman, on peut la retrouver donc sur Geeks by Girl. Moi, vous pouvez me retrouver dans le MOOC Rétro Laser qui sort tous les 3 mois chez Omake Books. J'ai l'honneur d'être le rédacteur en chef et vraiment, on a une super équipe de fous. On espère que le magazine vous plaît. Le livre de Madame Maman, donc Harry Potter, qui, le titre intégral est...
Harry Potter, petites histoires et grands secrets du monde des sorciers.
Voilà, donc sorti chez Omake Books, hein, vraiment, si vous voulez réviser votre Harry Potter universe, il y a tout dedans. C'est en mode petit grimoire tout mignon, enfin vraiment, je pense que c'est indispensable pour les fans, n'hésitez pas. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, ça vous le savez. On vous embrasse très fort et on vous dit donc à la prochaine émission, bye bye.
Bye bye.
Ciao.